Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invitée à 18h20, c'est une femme au cœur de la bataille pour la vaccination mondiale. Elle s'appelle Corinne Le Goff et elle est la directrice commerciale du laboratoire Moderna. Calendrier des livraisons attendues, nouveaux vaccins, défiance aussi des Français vis-à-vis de certains produits. Elle nous répondra dans quelques instants. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix. Que faut-il penser des blackface? Cette fois, c'est le comédien Gérard Darmon qui est dans la tourmente pour avoir posté une photo maquillée en noir. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. Et à 19h20, le Club des idées. Grand débat ce soir sur l'extrême droite et les jeunes. Le Rassemblement National, désormais premier parti des 25-34 ans. Alors comment l'expliquer? Pourquoi les tabous d'hier sont-ils en train de tomber? Qu'est-ce qui séduit concrètement les jeunes chez Marine Le Pen? Défiance vis-à-vis des partis traditionnels, repli identitaire, peur du déclassement. Nous verrons avec nos invités que les raisons sont multiples. Voilà pour le programme. D'abord toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Les cas inhabituels de thrombose qui ont été rapportés doivent être considérés comme de possibles effets secondaires du vaccin.
L'Agence européenne du médicament reconnaît donc qu'il y a un possible lien entre l'injection du vaccin AstraZeneca et de très rares cas de caillots sanguins. Mais en aucun cas, dit-elle, cela ne remet en cause le bénéfice-risque de ce vaccin.
L'Agence renvoie aux États la responsabilité de l'utilisation optimale de ce vaccin. En France, c'est donc la Haute Autorité de Santé qui va trancher.
Mais manifestement, on l'entendra, ça n'inquiète pas, outre mesure les Français.
Moins de contaminations, incidence en baisse dans les 19 premiers départements qui ont subi les restrictions, une raison d'espérer.
Dans l'actualité également, un Français acquitté par la justice de Hong Kong après 3 ans de prison et d'imbroglio judiciaire.
Une macabre découverte au domicile d'Aurélie Vaquier dans l'Hérault, la jeune femme est portée disparue depuis fin janvier.
Une chaise pour Charles Michel, mais pas pour Ursula von der Leyen. Le président turc inflige un affront, un camouflé à la présidente de la Commission européenne.
La Ligue des champions de foot, conditions climatiques glaciales pour le choc de ce soir. Bayern, Munich, PSG, quart de finale aller. On espère que ça ne refroidira pas en tout cas l'ardeur des Parisiens.
La Bourse de Paris a terminé à l'équilibre, moins 0,01% à 6130 points.
Tiens, et puis en parlant de météo, on retrouve Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Le thermomètre baisse encore demain.
Oui, glacial encore demain, effectivement, Julien, avec des gelées sévères qui sont attendues en tout début de journée. Mais attention, une bonne nouvelle arrive, le soleil va briller sur quasiment tout le pays demain après-midi, de quoi au moins réchauffer les cœurs.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc un avis qui était très attendu, celui de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca, soupçonné d'être à l'origine de très rares cas de thrombose.
Et finalement, le comité de sécurité a donc conclu que les bénéfices restaient bien supérieurs aux risques, Anne Le Gall.
Oui, le comité de sécurité de l'Agence européenne du médicament considère que le vaccin AstraZeneca garde toute sa place dans l'arsenal de lutte contre le Covid. Les bénéfices à se faire vacciner avec ce sérum restent supérieurs aux risques, mais les experts européens reconnaissent désormais un lien entre les rares cas de caillots sanguins et le vaccin. Emer Cook, la directrice exécutive de l'EMA, l'a confirmé cet après-midi devant la presse.
Les cas inhabituels de thrombose qui ont été rapportés doivent être considérés comme de possibles effets secondaires du vaccin. Une explication plausible pour ces effets secondaires très rares, c'est que ce serait une réaction du système immunitaire suite à l'injection. L'Agence européenne du médicament, en lien avec les États membres ainsi que l'entreprise, vont s'assurer que ces effets indésirables sont parfaitement communiqués au personnel soignant.
À ce stade, impossible de dire si l'âge, le sexe ou certains antécédents médicaux favorisent ces caillots sanguins. Mais les experts européens insistent, ces thromboses sont extrêmement rares. 86 cas, dont 18 ont entraîné un décès, ont été rapportés sur 25 millions d'Européens vaccinés. Le risque est donc de 0,3 pour 100 000. L'Agence européenne laisse désormais aux États le choix de l'utilisation optimale de ce vaccin. Les ministres de la Santé des 27 sont d'ailleurs réunis cet après-midi à ce sujet. Et l'on a appris tout à l'heure que le comité britannique sur les vaccins recommande de limiter son utilisation aux plus de 30 ans en Grande-Bretagne.
Précision signée Anne Le Gall. Vous savez qu'on a dit ce week-end que de nombreuses doses d'AstraZeneca dans le Nord et le Pas-de-Calais notamment n'avaient pas trouvé preneur en raison justement d'une certaine défiance face aux possibles effets secondaires de ce vaccin. Eh bien, Maximilien Carlier, vous vous trouvez à Calais dans un centre de vaccination justement où les candidats à l'injection sont cette fois présents et sans inquiétude particulière.
Tout à fait. Ici, 170 injections d'AstraZeneca. Alors, des effets secondaires très rares de thrombose, il y en a, c'est ce qu'a confirmé l'Agence européenne du médicament. Jean-Marc, 60 ans, en est conscient, oui, mais...
Pour moi, le AstraZeneca, ça ne pose pas de problème. Malgré les risques, pour moi, les risques, c'est quoi? C'est une personne sur combien? Non, non, de toute façon, les études ont montré qu'il était fiable.
Bon, ce Calaisien l'a avoué, il aurait préféré le Pfizer. Des sceptiques de ce vaccin anglo-suédois, il y en a encore, comme l'explique Agnès, qui enchaîne les piqûres.
Oui, ils sont plus ou moins réticents, mais après, bon, c'est à nous de les convaincre aussi. En plus, nous, on vient ici au Forum Gambetta, on est infirmière libérale, donc les gens, on a un travail aussi d'éducation, d'information, c'est très important.
Cette communication, cette publicité un peu désastreuse, c'est très certainement la raison qui a poussé ce centre à fermer ce week-end. Armand Devigne, infirmier.
Il y a eu samedi un souci, on a eu une annonce au niveau des médias comme quoi il y avait eu un incident avec l'AstraZeneca. On a eu 50 personnes qui ont rejeté leur rendez-vous. Aujourd'hui, bon, les gens ont peut-être pris conscience que c'était qu'un incident.
Un incident vite oublié par la population. Ici, finalement, toutes les doses d'AstraZeneca ont pu être injectées.
Le reportage de Maximilien Carlier à Calais.
Oui, notez que la France lance aujourd'hui la production de vaccins sur son sol, à Saint-Rémy-sur-Avre, près de Dreux. Ça se trouve en Eure-et-Loire.
Oui, c'est une nouvelle étape, une toute première usine, effectivement, sur le territoire français. Il y en aura d'autres à terme et on y reviendra dans le journal de 19h.
La France, qui a passé le cap des 30 000 malades hospitalisés, dont plus de 5 600 en réanimation, il y a malgré tout des raisons d'espérer.
Oui, parce que des signaux positifs ont été notés dans les 19 départements qui, dès le 20 mars, ont pris des mesures restrictives, notamment en matière de déplacement ou de fermeture des commerces, notamment. Mesures qui, depuis 3 jours, sont appliquées à tout le territoire. On peut, dans ces départements, commencer à en voir les effets. Victor Delande, et les nouvelles sont donc plutôt encourageantes.
Oui, depuis quelques jours, les courbes sont nettes. On voit une cassure, les indicateurs baissent. Prenez le Nord-Pas-de-Calais, le nombre de nouveaux cas y a baissé de plus de 10% en une semaine. Dans tous les départements d'Île-de-France, on observe aussi une diminution, plus légère certes mais bien réelle, du taux d'incidence et des entrées en réanimation. Autant de signaux très encourageants pour Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie à l'Université de Montpellier.
Quand je compare le haut niveau national, on est plus élevé que sur les 19 départements. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui descend au niveau de la circulation, qui est de moins en moins active. Mais pour le moment, elle n'est pas de nature à vider les services hospitaliers.
Ce qui veut dire qu'au niveau national, le nombre de patients en réanimation, 5 600 aujourd'hui, va encore augmenter pendant un certain temps. Mais ces effets, mesurés dans les 19 départements où des restrictions avaient été mises en place plus précocement, peuvent laisser penser qu'on observera les mêmes tendances dans le reste du pays dans les prochaines semaines. C'est donc une bonne nouvelle.
Merci beaucoup Victor Delande du service Société d'Europe 1.
18h06, on en vient à cet affront qui a donc été infligé hier à la présidente de la Commission européenne.
Ursula von der Leyen et Charles Michel, le président du Conseil européen, avaient rendez-vous avec le président turc Erdogan à Ankara. On en avait parlé sur Europe 1, rencontre qui était censée permettre un réchauffement des relations. Sauf que ce que l'on gardera finalement de cette rencontre, eh bien c'est cette image captée par les caméras de télé. Surréaliste. Charles Michel a le droit de s'asseoir aux côtés du président turc, mais pas Ursula von der Leyen, Hélène Terzian.
Et oui, après avoir pris la pause pour la presse, devant les photographes, Erdogan et le président du Conseil européen s'assoient côte à côte, chacun dans leur fauteuil respectif préparé pour la réunion. Tout cela devant une Ursula von der Leyen désemparée, puisqu'elle ne semble pas savoir où s'installer, interloquée. On l'entend murmurer, s'interroger. La présidente de la Commission européenne n'a alors pas d'autre choix que de prendre place sur le divan attenant en retrait des deux hommes. Donc, le porte-parole d'Ursula von der Leyen a ensuite expliqué qu'elle avait décidé de passer outre sur le coup, mais elle a demandé à ce que ce type d'incident ne se répète pas à l'avenir, rappelant à cette occasion qu'elle-même et Charles Michel avaient le même rang protocolaire. C'est d'ailleurs ce qui a particulièrement fait réagir jusqu'à la classe politique française. Valérie Rabault, par exemple, chef de file des socialistes à l'Assemblée nationale, aurait souhaité que Charles Michel cède sa place à Ursula von der Leyen.
Si l'Europe veut être crédible, il faut qu'elle s'affirme aussi comme puissance, qu'elle affirme ses valeurs. Tant qu'elle ne le fera pas, elle peinera à avoir une vraie crédibilité en termes de diplomatie. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'on étale des divisions, on accepte que Mme von der Leyen se fasse humilier de la sorte, c'est inacceptable.
Un incident qui a suscité la colère aussi chez de nombreux élus à Bruxelles, alors que la Turquie vient de se retirer de la Convention d'Istanbul qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes.
Merci beaucoup Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, vous restez avec nous dans quelques secondes. La suite du journal, un corps découvert sous une dalle de béton dans l'Hérault. Peut-être celui d'une jeune femme disparue depuis 2 mois.
Et puis le PSG face au Bayern Munich, ce soir en Ligue des Champions.
A tout de suite. Avec la suite du journal, et on vous le disait, du nouveau ce soir donc dans l'enquête sur la disparition d'Aurélie Vaquier dans l'Hérault.
Oui, cette jeune femme de 39 ans a été portée disparue depuis le 28 janvier. Aujourd'hui, Benjamin Péter, un corps a été découvert à son domicile.
Oui, ce sont des gendarmes de l'IRCGN qui, à l'aide d'un géoradar, ont fouillé la dalle au rez-de-chaussée de l'immeuble ce matin, là où Aurélie et Samir, son compagnon, faisaient des travaux pour transformer cette ancienne galerie d'art de la rue Courbezoux en restaurant. Et c'est sous la dalle de béton qu'ils ont retrouvé un corps. Jérémy, le frère d'Aurélie, est arrivé tout à l'heure, entouré de quelques amis. Il a espéré jusqu'au bout retrouver sa sœur vivante.
Je suis abasourdi par ce qui se passe. J'ai pas vraiment de mots. Jusqu'au bout, j'ai espéré. Jusqu'au bout, Même quand j'ai reçu l'appel ce matin, j'étais encore sur le fait de « c'est pas possible, c'est pas elle, c'est pas possible ». Le seul truc que j'ai à dire, c'est que j'espère que les coupables vont payer très cher. Parce qu'enlever ma sœur, c'est plus que tout, et j'espère que la gendarmerie fera son travail pour trouver pourquoi ça s'est passé et comment ça s'est passé, et que justice soit faite.
Alors les gendarmes sont toujours sur place, une autopsie devrait être pratiquée dans les prochains jours pour confirmer qu'il s'agit bien d'Aurélie Vaquier, même si pour son frère les indices laissent peu de doutes. Son compagnon, lui, a été placé en garde à vue.
Le reportage de Benjamin Péter à Bédarieux dans l'Hérault.
Dans l'actualité également ce soir, Isabelle, l'acquittement d'un Français qui a passé 3 ans en prison en Indonésie, puis ensuite à Hong Kong.
Oui, cet homme d'affaires était accusé de malversation financière par ses anciens associés. Une histoire compliquée et la fin d'un cauchemar donc pour Mathias Echen et ses proches, Marion Dubreuil.
Oui Isabelle, un cauchemar qui s'est noué il y a plus de 10 ans. Mathias Echen monte alors un business de villas de luxe en Indonésie avec plusieurs partenaires. L'affaire est florissante, mais en 2012, ses associés déposent plainte contre lui à Hong Kong pour malversation financière. Le Français ne le sait pas, mais il fait l'objet d'une fiche rouge Interpol. Il est arrêté 5 ans plus tard à Bali et incarcéré pendant plus de 3 ans dans des conditions très difficiles. Sa sœur Éléonore est soulagée qu'il soit enfin acquitté.
Ça fait presque 4 ans qu'on est séparés, enfin voilà, qu'on ne l'a pas vu physiquement, on ne l'a pas touché. Si ça avait été en France, par exemple, ça se serait réglé au tribunal du commerce. Jamais en prison comme ça, avec pas de date de procès, rien. Tout a été complètement fou et hors du droit international.
L'ONU avait jugé sa détention arbitraire dès 2019 et demandé sa libération immédiate, sans succès. Mathias Echen espère pouvoir rentrer en France dans les jours qui viennent et enfin retrouver ses 3 enfants.
Une précision signée Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
En football, c'est le grand jour pour les Parisiens qui vont affronter ce soir le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Match capital, évidemment. Et c'est pour ça que vous pourrez le vivre en direct sur Europe 1 et en intégralité. Grande soirée foot dès 20h. Alors Julien Froment, vous êtes déjà sur place, en Bavière, et vous êtes bien content d'avoir emporté vos gants parce qu'il paraît que le fond de l'air est glacial. Plus sérieusement, est-ce qu'on est prêt côté parisien ?
Ah bon, on fait tout pour en tout cas, malgré les absences de marque, le Paris Saint-Germain n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort, comme l'a dit ce matin sur Europe 1 à Mathieu Béliard, le milieu de terrain parisien Ander Herrera. Il flottera en plus forcément un petit air de revanche ce soir à l'Allianz Arena après la défaite en finale de la Ligue des Champions face à ces mêmes Bavarois en août dernier. L'entraîneur Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG qui était simple spectateur à l'époque, voit plutôt l'occasion de marquer les esprits face à la meilleure équipe du monde.
Je ne crois pas que ce soit une revanche. Il s'agit plutôt de prouver à nous-mêmes que nous sommes capables de battre un rival comme le Bayern Munich, champion d'Europe, champion du monde et qui aujourd'hui est le meilleur d'Europe. C'est ça notre grand défi, qui doit nous mobiliser et nous motiver.
Alors, contre Bayern Munich, lui aussi amoindri, mais tellement sûr de sa force, au Paris Saint-Germain d'être solide derrière, efficace devant, c'est la formule magique pour éviter la mise en bière et surtout garder eh bien, ses chances de qualification.
Oui, on va éviter la mise en bière, effectivement. Merci Julien Froment en direct de Munich, où vous nous ferez donc vivre ce match ce soir en intégralité sur Europe 1 depuis l'Allianz Arena.
Et on sera au rendez-vous, on a hâte de découvrir ce match et évidemment le résultat est là. Performance, on l'espère, des Parisiens. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. La météo avec Anissa Dadi qui nous annonce une journée lumineuse demain avec un thermomètre qui va continuer de baisser. Mais je crois que vous avez des infos d'abord Anissa sur la météo du côté de Munich.
Ah bah alors à Munich, les joueurs vont jouer sous les flocons de neige. Il va faire froid et en plus la neige va tomber pendant le match. Donc des conditions qui, allez, on va dire que vont avantager les Parisiens. Pourquoi pas, on va croiser les doigts.
Alors en tout cas demain. Quelle météo demain?
Vous le disiez, très lumineuse. Le soleil va briller sur une grande partie du pays demain quasiment. Tout le monde aura droit à vraiment de très beaux rayons de soleil. L'important, c'est le froid encore, puisque le thermomètre va baisser. Nous aurons moins 8 degrés au Puy-en-Velay, moins 6 à Manosque et Clermont-Ferrand, moins 4 à Rodez, moins 2 à Caen, un petit degré pour Paris et 5 à Nice demain matin. L'important, et on va le retenir, c'est le soleil.
Bien, merci Anissa. L'important, c'est le soleil. C'est vrai, vous avez raison d'être optimiste. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, restez avec nous dans quelques secondes. On vous dira tout sur les livraisons attendues de vaccins avec notre invitée, la directrice commerciale du laboratoire Moderna. À tout de suite. Et notre invitée ce soir à 18h20, elle va nous aider à y voir clair sur la vaccination et la défiance aussi qui monte du côté des Français contre certains de ces vaccins. Cette invitée, c'est la directrice commerciale du laboratoire Moderna. Bonsoir Corinne Le Goff.
Bonsoir Julien Bouger.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors j'imagine que vous êtes sur le pont du matin au soir en ce moment.
Ah oui, ça je vais vous dire que toutes nos équipes travaillent à flux tendu. On est une jeune société. On a été en capacité de monter nos chaînes de production pour fournir le monde entier. Ça a été un travail tout à fait intense et on continue vraiment de travailler pour cette vision et cette mission qui est de vraiment sauver le monde de cette pandémie et de s'en sortir finalement.
Bon bah je vous remercie d'autant plus de nous accorder quelques instants pour parler à nos auditeurs et à nos auditrices. Mais c'est important, c'est vrai, car il y a, je le disais, une défiance qui monte en France vis-à-vis de votre vaccin. Est-ce que vous avez une explication? On dit qu'il y aurait une confusion entre AstraZeneca et Moderna. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ailleurs en Europe et qui vous inquiète?
Alors, est-ce que je suis inquiète? Non, je pense qu'effectivement, il y a un besoin d'éducation. Vous savez, nous ne passons pas beaucoup de temps dans les médias, on ne nous a peut-être pas beaucoup vus, pas beaucoup entendus. Nous sommes une société de biotechnologie qui a une plateforme d'ARN messager. Et lorsque nous avons commercialisé ce vaccin, qui est notre premier vaccin, on a décidé de ne pas le faire avec une grosse société pharmaceutique comme Pfizer a fait avec BioNTech. Voilà, on pâtit peut-être de ce manque de communication, mais c'est important de rappeler que le vaccin à plateforme ARN messager sont extrêmement efficaces et n'ont pas d'effets secondaires observés. Bien sûr, on continue de regarder la pharmacovigilance avec attention. Mais si vous voulez, on est sur la même plateforme que le vaccin Pfizer.
Travail de communication, donc on vous entend. C'est vrai qu'il y a des A, comme dans AstraZeneca, Moderna, mais ça n'est évidemment pas, on le répète, le même vaccin. Alors, sur la production, Corinne Le Goff, et la livraison de vos vaccins, pour la France, on est à peu près à 1 400 000 doses livrées à date, me semble-t-il. Pourquoi si peu? Est-ce que c'est un problème de contrat ou est-ce que c'est un problème de production qui a du mal à suivre?
Non, nous sommes tout à fait en phase avec nos prédictions de production. Bien sûr, c'est une montée en puissance, hein, puisqu'on livre l'Europe à partir de notre chaîne d'approvisionnement qui est basée en Suisse avec nos partenaires Rovi en Espagne. Et puis bientôt, j'espère qu'on va commencer avec notre partenaire Recipharm en France dans les prochains mois. Mais c'est simplement une montée en puissance. Mais en tout cas, on est tout à fait dans les temps de ce qu'on avait promis et notre trajectoire de fabrication est conforme à ce qu'on avait dit. Donc,
oui, on est toujours sur l'objectif. L'Europe, je crois, a passé commande d'environ 300 millions de doses avec une option pour 150 millions supplémentaires qui est livrable d'ici au troisième et quatrième trimestre.
C'est ça.
Vous serez dans les temps?
On sera dans les temps.
Bien. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une question vue de France, un peu loin comme ça. Vous avez été les premiers à annoncer avoir trouvé un vaccin. On se souvient de cette annonce tonitruante qui a réjoui évidemment le monde entier. Mais vous êtes à des niveaux de production très en deçà de Pfizer.
Alors, il faut que vous sachiez qu'on est cette année, on est en position de produire 700 millions de doses, c'est ce que l'on a annoncé. Vraisemblablement, on va aller vers 1 milliard de doses. Et puis l'année prochaine, on passera à 1 milliard 4. Mais vous savez que nos doses aussi sont des doses concentrées à 100 microgrammes. Et bien entendu, ça a un impact. Hein. Mais en termes de production de masse d'ARN messager, on est parmi le premier producteur mondial.
Oui. Votre patron Stéphane Bancel nous expliquait il y a quelques semaines à ce micro que c'est la faute de l'Europe si on n'a pas, nous, plus de vaccins Moderna. Ils n'ont pas été assez rapides, nous disait-il, et ils ont trop misé sur les laboratoires européens. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Américains ont plus de Moderna que les Européens?
Oui, alors effectivement, donc, vous avez annoncé les doses qui ont été commandées par la Commission européenne. C'est à peu près 20% de moins que ce qui a été commandé à Pfizer ou à AstraZeneca. Je pense que ce que la Commission européenne a fait, c'est qu'elle a essayé de d'avoir un portefeuille de vaccins, si vous voulez. Donc, il faut reconnaître que c'était sans doute la bonne stratégie. Peut-être qu'il y a eu un délai par rapport à ce que les États-Unis ont fait, puisque avec l'opération Warp Speed, le gouvernement américain a pu commander très rapidement, en avance même, des données cliniques d'efficacité.
J'ai une question à vous poser, Corinne Le Goff, que se posent évidemment beaucoup de Français. Une fois les doses sorties d'usine, qui est servi en premier parmi tous vos clients et sur quels critères ?
Alors, d'abord, il faut que vous sachiez, nous, on ne fait pas de stock. Donc, dès que ça sort de production, c'est livré.
Oui.
Et on livre en fonction de ce que la Commission européenne nous demande de faire.
Oui.
Donc, c'est sur les critères d'attribution que la Commission a décidé.
Mais entre les Américains et les Européens, qui est livré en premier ? C'est celui qui a commandé le plus ? Celui qui a mis le plus d'argent sur la table ?
Alors, non. Alors, notre chaîne d'approvisionnement, qui est basée en Europe, livre en priorité l'Europe et les autres pays internationaux, mais pas les États-Unis. La livraison des États-Unis provient de notre chaîne d'approvisionnement aux États-Unis.
Oui. Et vous n'avez pas la capacité d'installer d'autres usines et de transférer votre production dans d'autres sites partenaires pour augmenter la cadence, encore une fois, de production ? Ce n'est pas possible, ça ?
Oui, alors, vous savez, nous sommes en discussion constante avec les gouvernements pour étudier ces possibilités. Il faut savoir néanmoins que cela prend du temps de monter une usine de fabrication. Ça prend entre 9 mois et 1 an. Donc, mais nous sommes en discussion constante pour, comme je vous l'ai dit, pour augmenter nos investissements et continuer de produire le plus rapidement possible.
Je vous pose la question, Corinne Le Goff, parce qu'il y a aussi un enjeu sanitaire, évidemment, qui se joue en ce moment, qui est énorme. Et il y a un débat qui monte sur les laboratoires doivent-ils ou non accepter de céder, de vendre la licence du vaccin, c'est-à-dire que d'autres puissent le fabriquer pour gagner du temps. C'est ce qu'on fait régulièrement dans l'industrie, vous savez, avec les transferts de technologies. Pourquoi ne pas le faire dans le sanitaire ? On a le sentiment parfois que ce sont les laboratoires qui mènent la danse pour une affaire de gros sous, alors que c'est vrai, des vies humaines sont en jeu.
Non, alors, vous savez, nous, on a été très très clair sur dans cette période de pandémie. D'abord, on a dit qu'on offrait notre propre... On n'activerait pas notre propriété industrielle, donc ça c'était un message très clair. Et puis on a aussi dit qu'on voulait être distribué dans le monde entier et que nos prix seraient différenciés en fonction des revenus des pays. Donc ça a été notre politique et ça a été notre politique dès le début.
Mais l'idée de vendre la licence à un autre laboratoire, c'est exclu.
Ça ne résout rien. Le problème n'est pas la licence d'exploitation, le problème c'est le transfert technologique qui prend du temps. Mais comme je vous l'ai dit, nous serons en capacité de fournir l'Europe cette année et puis vraisemblablement aussi de fournir l'Europe sur les variants que nous avons déjà mis en production.
Bien. Avec un élément, Corinne Le Goff, très important, qui devrait d'ailleurs changer la donne. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, en France, a annoncé qu'il y aurait des sites de conditionnement du vaccin Moderna. Vous nous le confirmez ? Je crois que ce sera du côté de l'Indre-et-Loire, à Mont.
Oui, je vous le confirme. Donc, c'était Recifa, mais j'espère qu'on pourra annoncer ça dans les prochains mois. En tout cas, sur cette première partie de l'année.
Il est toujours aussi efficace, le vaccin Moderna, contre les variants, et notamment le variant sud-africain ?
On a vu le variant sud-africain diminuer le nombre d'antigènes neutralisants. Alors, c'est-à-dire que les gens qui se font vacciner aujourd'hui par un vaccin Moderna sont toujours protégés contre ce variant sud-africain. Mais ce qu'on a décidé de faire, et peut-être par abondance de précautions, c'est de produire immédiatement ce nouveau variant, pour être sûr qu'on puisse, peut-être dans les prochains mois, vers la fin de l'année, administrer une dose de rappel qui sera spécifique de ce variant.
Donc vous faites évoluer en permanence, dès maintenant, dans vos laboratoires, le vaccin en fonction de la mutation du virus ?
C'est ça, absolument.
C'est fascinant. Vous avez aussi lancé des essais pour un vaccin pour les enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Ça fait débat là aussi. Vous y êtes favorable, vous, chez Moderna, à la vaccination des enfants ?
Oui, bien sûr, parce que les enfants n'ont peut-être pas développé des formes graves de l'infection, mais sont porteurs.
Bien, merci infiniment pour ces quelques mots. Merci Corinne Le Goff d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci à vous.
Avec grand plaisir. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Quelques secondes, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On reviendra notamment sur cette polémique déclenchée par l'acteur Gérard Darmon pour avoir publié une photo blackface. À tout de suite. Le Le rappel des titres avec Isabelle Millet, 18h30.
Et le procureur de Béziers confirme à l'instant que le corps retrouvé sous une dalle à Bédarieux dans l'Hérault est très probablement celui d'Aurélie Vaquier. La jeune femme de 38 ans avait disparu fin janvier. Son mari a été placé en garde à vue. Le nouvel avis de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin AstraZeneca, elle reconnaît un possible lien entre l'injection du vaccin et de très rares cas de caillots sanguins. Mais en aucun cas, dit-elle, cela ne remet en cause le bénéfice-risque de ce vaccin. L'agence renvoie aux États la responsabilité de l'utilisation optimale. Le lancement aujourd'hui en France de la production de vaccins sur le sol français à Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loire, du Pfizer cette fois. Trois autres sites seront opérationnels dans les prochains mois. L'enseignement à distance a un petit peu mieux fonctionné aujourd'hui qu'hier, en tout cas en Ile-de-France, mais il y avait encore des problèmes de connexion. Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête sur le piratage du CNED qui gère la plateforme d'enseignement à distance. Et puis le foot, bien sûr, le PSG qui défie le Bayern Munich ce soir en Allemagne. Quart de finale aller de la Ligue des Champions, match à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 20h, grande soirée foot.
Évidemment, merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 19h. La météo avec Anissa, coup de froid demain, ça continue.
Oui, ce matin, d'ailleurs, nous avons battu des records. Déjà hier, et bien ce matin, ils ont été encore battus, des records mensuels de froid, avec moins 6,9 à Beauvais, moins 5,4 à Orléans. Le dernier record aussi froid était en 1938. Donc vous voyez qu'il fait particulièrement froid en ce moment. Ces températures négatives, elles ont plusieurs origines. D'abord, une masse d'air arctique présente sur le pays depuis lundi, des nuits sans nuages, et puis le vent du nord qui arrête de souffler dans la nuit, et du coup, eh bien, le froid s'accumule près des sols et les températures deviennent négatives. Alors demain, on aura moins 8 au Puy-en-Velay, moins 6 à Clermont-Ferrand, moins 4 à Gap, moins 3 à Lyon, 0 à Toulouse et Strasbourg, 1 petit degré pour Paris et 6 à Nice. Bonne nouvelle, le soleil va briller sur quasiment tout le pays demain et les températures vont se radoucir dans l'après-midi avec plus de 20 degrés dans le sud-ouest.
Eh bien, c'est déjà ça de prix. Merci Anissa pour ces prévisions. C'est vrai, il a fait jusqu'à moins 8,6 ce matin. J'ai vu ça ce matin en Corrèze. Moins 9. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure, même chose à 19h.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bruno Cotrez, politologue et chercheur au CEVIPOF. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Olivier Perroux, journaliste au Point. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Alors, on va évidemment parler de la crise sanitaire, de la vaccination. Je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à cette polémique, la polémique du jour autour du comédien Gérard Darmon. L'acteur de 73 ans a posté une photo sur Instagram, grimé en Othello, le visage maquillé en homme noir, ce que l'on appelle une blackface. C'est une pratique qui est jugée raciste et qui fait sacrément polémique sur les réseaux sociaux et dans le débat du jour. D'abord, est-ce que vous comprenez, Olivier Perroux, que cette photo puisse choquer ?
Non, je ne comprends pas, parce que d'une part, en fait, ça révèle que ces réseaux sociaux, l'inculture qui règne quand même dans ce monde des réseaux sociaux. Je ne vais pas vous faire un cours, mais Othello, donc Othello ou le mort de Venise,
oui.
Qu'est-ce qu'un mort ? C'est un berbère, donc d'Afrique du Nord. Et quand Shakespeare décrit Othello dans l'œuvre, il le décrit comme noir. Non pas parce qu'il est noir, mais juste parce que sa couleur de peau, c'est une pure nuance de couleur de peau par rapport aux Anglais en 1604 qui, évidemment, avaient un teint de peau plus pâle. Donc, en fait, c'est vraiment une description juste de couleur à l'époque.
Oui.
Et depuis, une convention littéraire, théâtrale, s'est installée de donner ce rôle, en fait, à des Noirs. Mais c'était une erreur. C'est juste parce que Shakespeare utilise le mot noir qu'on a donné ce rôle à des Noirs. Or, on parle bien d'un mort. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'au final, on a vraiment Gérard Darmon, un mort, puisque je rappelle que Gérard Darmon est né de parents berbères, il est franco-marocain, donc vraiment, il incarne le rôle.
D'ailleurs, si vous voulez être tout à fait précis, certains ont même dit qu'il n'y avait pas besoin de se grimer en noir.
Exactement, et c'est là où je voulais en venir.
Il n'avait pas besoin
de faire ça. Alors, donc au final, on n'avait vraiment pas besoin pour Gérard Darmon de faire ça, et comme ça, non plus les réseaux sociaux
Je poursuis Michel Cotta, parce qu'évidemment, le Black Face, c'est pas la première polémique. On se souvient de Griezmann, le footballeur, qui avait dû s'excuser après avoir publié une photo où il s'était noirci le visage. Pourquoi ça fait polémique aujourd'hui ? Parce que le terme blackface remonte à une époque américaine au 19e siècle où des spectacles pendant lesquels des blancs se noircissaient le visage pour jouer des noirs et se moquer d'eux. Donc ça nous vient des États-Unis, cette censure autour du blackface.
Il y a beaucoup de choses qui nous viennent des États-Unis en ce moment.
et notamment ce genre de polémique autour...
faux débat, vous dites ?
Autour des Noirs. Oui, moi je trouve que c'est un faux débat, parce que bon, qu'il soit mort, ça veut dire qu'il est, qu'il vient effectivement de, d'Afrique du Nord, ou qu'il soit, comme disent d'autres interprétations de Shakespeare,
Mais sans rentrer dans le débat shakespearien,
voilà, un noir
simplement
qui a été libéré.
Sur bon. Cette histoire de blackface.
Moi, je trouve que c'est nettement exagéré. Voilà, c'est tout. C'est Othello. Il a toujours été représenté comme ça, sous des formes plus ou moins noires, y compris par Pierre Brasseur. Personne n'a rien dit. On n'est pas en train de dire, ah, Pierre Brasseur, quand il jouait ce rôle, ou Orson Welles, quand il jouait ce rôle, quand même, il s'était un peu grimé.
Alors, Bruno Cottret, je vous donne la parole dans quelques secondes, mais simplement pour... montrer aussi à nos auditeurs que c'est un sujet qui traverse la société. Je vous propose d'écouter Pape Diaye. Pape Diaye, c'est le chargé de mission par Roselyne Bachelot sur la diversité à l'Opéra de Paris.
Le grimage, le costume, c'est partie inhérente évidemment et essentielle de l'opéra et du théâtre. À l'Opéra de Paris, on ne grimera plus en personne noire, en personne asiatique ou en personne non blanche en général. Pas de censure, mais des changements.
Ah, pas de censure, mais des changements. Est-ce que vous comprenez ça, Bruno Cottret ?
Oui, on peut comprendre l'extrême sensibilité sur ces questions dans l'opinion. Et au fond, on peut avoir deux types de réactions. Il y a une réaction qui est effectivement le débat un peu de spécialistes shakespeariens qui vont effectivement dire c'est un mort, ça n'est pas un noir, le personnage d'Othello. Et puis une autre manière aussi de prendre les choses, qui est de dire que, eh bien, il y a peut-être des raisons pour lesquelles une partie de l'opinion manifeste une très grande sensibilité à ces questions, indépendamment du fait qu'elle a lu ou qu'elle n'a pas lu Shakespeare. Et au fond, il y a beaucoup de controverses dans l'espace public qui partent comme ça, sur des phénomènes dont la plupart des gens qui participent à ces controverses connaissent peu de la réalité. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours de voir pourquoi
je vais vous poser une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi est-ce que se grimer en personnage noir, ça choque aujourd'hui et c'est considéré comme raciste ?
Parce que c'est vécu par certains à travers le prisme, effectivement, du blackface. Et ce sont des sujets sur lesquels, d'ailleurs, on voit que les controverses sont à plusieurs entrées. J'ai retrouvé une controverse en 2015 lorsque c'est Philippe Torreton qui avait tenu le rôle. Et là, on disait, c'est pas normal, ils volent la vedette. Mmh. C'est un blanc qui vole la vedette à un personnage, un acteur qui devrait être un acteur dont la peau est colorée. Si c'est un personnage, un acteur dont la peau est colorée qui tient le rôle, on va dire qu'on le cantonne à un rôle. Donc ce sont des sujets sur lesquels, on n'a pas de solution.
Il y a quelque chose qui est quand même très intéressant de noter, d'ailleurs, dans cette polémique, puisque... en effet, on a comparé à ce qui s'était passé avec Griezmann, ce qui est complètement différent pour les raisons qu'on vient d'expliquer sur Othello. Mais quand c'est Omar Sy qui réinterprète le rôle d'Arsène Lupin, là c'est l'extrême droite qui rue dans les brancards pour exactement les mêmes raisons, mais pour différentes couleurs de peau. Et au final, on voit bien qu'aujourd'hui, sur ces sujets, la société, elle est clivée, elle est seule qui arrive à exprimer des opinions, je ne suis pas d'accord avec ces opinions, mais des opinions claires et qui ont la voix, c'est les deux extrêmes.
Oui.
C'est ces gens qui se ruent dans les réseaux sociaux ou l'extrême droite.
Il n'y a pas forcément des extrêmes. Il y a aussi, j'ai regardé un peu les messages sur les réseaux sociaux, il y a une émotion populaire quand même, des jeunes issus de la diversité, par exemple.
Il y a surtout une concomitance, évidemment, avec le mouvement noir américain, ce qui se passe en ce moment, ce rôle d'Othello. Enfin, quand on en reste quand même au rôle qui est joué soit par un mort, soit par un noir, moi je ne vois pas en quoi ça doit être une polémique absolument extraordinaire. Ça a souvent été le cas, ça a toujours été le cas même dans les opéras. Bon, voilà, alors je veux bien que maintenant on décide.
Alors ce ne sera plus le cas visiblement à l'Opéra de Paris.
Aïda ne sera plus une princesse éthiopienne.
Ou jouée par quelqu'un de la couleur de la princesse éthiopienne, voilà. C'est ça la différence.
Elle sera blanche.
Parenthèse fermée, 18h39, on marque une pause, on va parler du retour à la normale, nous annonce le président de la République, la sortie de la crise sanitaire, c'est pour bientôt, à tout de suite. Avec la suite du débat des grandes voix, Michel Cotta, toujours à mes côtés, Bruno Cottret, politologue et chercheur au CEVIPOF, et Olivier Perroux, journaliste au Point. Alors, un peu d'espoir maintenant, ça nous fait du bien, un retour à la vie normale se dessine, nous dit-on, pour l'automne prochain. C'est ce que prédit le gouvernement et c'est ce que semblent indiquer aussi les prévisions de l'Institut Pasteur, à quelques conditions, qui va d'ailleurs peut-être pousser les plus réticents à se faire vacciner. On va en parler, d'abord on écoute le président de la République, hier, dans son message à des collégiens.
On aura, par cet effort collectif, là, des 4 prochaines semaines, bien freiner le virus un peu partout. Et puis on aura continué d'accélérer la vaccination, ce qui nous permettra d'être dans une situation plus confortable et de continuer cette course de vitesse en quelque sorte, de prendre le virus en tenaille entre les mesures de freinage et la vaccination. Et donc je pense que jusqu'à la fin de l'année scolaire ensuite, il ne devrait pas y avoir un nouveau de confinement.
Voilà, plusieurs étapes à Bruno Cotterêts. Un retour à une forme de déconfinement mi-mai, nous prédit le président de la République. Et puis une vie quasiment normale, entend-on, arrivée à l'automne. Ça veut dire plus de masques, plus de gestes barrières et ouverture des restaurants. La vie d'avant, la vie rêvée, vous y croyez, vous ?
Le retour des jours heureux.
Le retour des jours heureux,
le président
évidemment.
De la République, il l'avait annoncé il y a déjà quelques mois. Donc on voit que c'est très difficile quand même. Il a raison en même temps de dessiner des perspectives positives. Parce
c'est
que
ce qui nous manquait.
Bah,
c'est
l'état d'opinion est gravement plombé. Hein. Moi, j'ai analysé récemment les données d'un sondage BVA sur ces questions. Le climat de l'opinion est quand même extrêmement préoccupant. On a plus des deux tiers des personnes qui sont soit extrêmement dans un sentiment de perte de sens, de perte de repère, on est perdu, on ne sait plus qui a raison, qui dit la vérité. Des gens aussi qui ont un sentiment de profonde indignation par rapport à la situation. Et dans mes estimations, dans mes calculs, je trouve que 29% d'optimistes. Donc il est largement temps que la situation se redresse parce qu'on voit que l'État psychologique du pays, c'est oui, pas seulement oui. Les jeunes, les étudiants, c'est plus généralement dans de très nombreuses couches de la population oui. où on aspire à un vrai bol d'oxygène à la rentrée, effectivement.
Bon, quelques précisions, Michel Cotta, quand même, hein, pour ce retour à la normale, nous dit l'Institut Pasteur, il faudrait que 90% des adultes, 90% soient vaccinés en France d'ici le 1er septembre pour espérer ce retour à la normale et à la vie d'avant. Ça fait beaucoup quand même, 90%.
Il y a au moins deux interrogations. La première, c'est est-ce que le rythme des vaccins sera à la hauteur. Et la deuxième, c'est quand même, dans les sondages, on apprend aujourd'hui que 57% seulement des Français accepteraient de se faire vacciner.
Oui, on est loin des 90%.
Dans ce cas-là, on est loin des 90%. Et dans ce cas-là, il faut rendre la vaccination obligatoire. Et après tout, il y a d'autres vaccinations obligatoires. Oui. Il y en a d'autres quand on est bébé. À ce moment-là, il faudra sûrement que l'exécutif prenne une décision très, très, très difficile à prendre.
Bonne idée, ça, la vaccination obligatoire. C'est forcément par ça que passera la fameuse immunité collective.
Je ne sais pas, mais quand on lit les travaux de l'Institut Pasteur, en effet, on se dit qu'il est très difficile de ne pas passer par la vaccination obligatoire. Si on doit attendre justement que 90% des plus de 65 ans et de 70% des 18-70 ans soient vaccinés pour avoir justement un retour à la vie normale et aux jours heureux. Mais il y a une question sous-jacente dans cette histoire, c'est la vaccination des jeunes, des enfants en fait, parce que tant qu'on ne les a pas vaccinés, qu'est-ce que les écoles deviennent ? Les écoles resteront des nids à transmission du vaccin tant qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc
vous avez raison, parce que les symptômes sont assez faibles chez les moins de 18,
mais en tout cas, ils sont transmetteurs
du virus. Sauf que le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas les doses. On peut débattre de la vaccination pour les jeunes,
mais
on n'a
pas les doses.
On n'a
pas les doses. Ça fait 4 ou 5 mois que nous sommes en train de parler d'accélération. Et finalement, en l'état actuel des choses, on a AstraZeneca qui est très lent parce que les gens n'en veulent pas.
On va en parler.
Voilà, et on a Pfizer. Là, on commence justement à produire sur notre sol des vaccins qui ne seront pas forcément pour le public français, donc qui vont être pour l'Europe, une petite part. Et finalement, on aura ça dans un mois. Donc le retour aux jours heureux, au mieux à la rentrée...
Vous n'y croyez pas ?
Je n'y crois pas.
En tout cas, il y a une information importante, hein, je vous la livre en exclusivité, puisque c'est ce que nous a dit tout à l'heure la directrice commerciale de Moderna. Ça y est, le laboratoire travaille sur un vaccin pour les enfants à partir de 6 ans. Et aux États-Unis, ça ne pose pas débat. Ils ont commencé d'ailleurs à ouvrir la vaccination aux plus de 16 ans.
Ça posera débat sans aucun doute en France, parce qu'on voit que la question de la vaccination, c'est une question plus ample, beaucoup plus large que la simple question de la vaccination en France. On l'a vu récemment dans notre enquête du Cevipof, le baromètre de la confiance politique, qu'on a publié au mois de février, France, Allemagne, Angleterre, Italie. Et on voit que sur les 4 pays, c'est en France que l'adhésion à la vaccination est à la fois la plus faible, avec des vraies poches de résistance.
Toujours aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, et ces poches de résistance...
On pensait qu'il y avait une bascule qui s'était opérée.
Pas vraiment, il y a toujours des poches de résistance qui sont clairement qu'une partie des Français voit avec défiance aussi qui est le prescripteur.
Oui.
C'est pas seulement la vaccination, mais qui prescrit la vaccination ? Le gouvernement. Et derrière la crise de confiance dans la vaccination, il y a aussi la crise de confiance dans les institutions en France.
Michel Cotta.
Il y a des vaccins obligatoires quand on est au bébé. Alors, quand les gosses ont 3 mois, on les vaccine sans problème, et on ne les vaccinerait pas à 6 ans. Ouais. Même s'il y a des réticences, évidemment.
Mais c'est
on
plus
voit
facile de forcer un bébé de 6 mois qu'un individu de 45 ans. Vous en conviendrez,
ça dépend.
Michel. Et si les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas aller chercher chez eux avec la police, quand même. On ne peut pas faire ça.
Non, mais on essaye de rendre ça le plus... On verra, d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit quand même que beaucoup plus de gens se font vacciner que ce qu'ils disent.
Il y aura peut-être une obligation sociale de se faire vacciner pour aller dans les musées, pour prendre l'avion, pour prendre le train.
Mais bien sûr, mais puis quand son voisin se fait vacciner, justement, ça amène un autre voisin à le faire. Si tu l'as fait, j'irai aussi. Donc finalement... La France, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, ils arrivent à vacciner massivement. C'est un pays d'une population qui est quand même assez complotiste. Et bien finalement, ils arrivent malgré tout à vacciner. Je pense qu'une fois qu'on aura les vaccins, les Français iront se faire vacciner.
Bien. Défiance, on en parle dans quelques secondes. Les raisons de la défiance, comment l'expliquer? Et puis l'arrivée de millions de doses. Parce que ça y est aussi, les vaccins arrivent massivement en France. À tout de suite. Allez, la suite du débat des grandes voix du mercredi avec toujours Michel Cotta, Bruno Cotterès, politologue et chercheur au CEVIPOF, Olivier Perroux, journaliste au Point. Je voudrais votre avis, Bruno Cotterès, sur les raisons de cette défiance qui remonte avec l'AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments a confirmé aujourd'hui que la balance bénéfice-risque du vaccin reste positive, mais les Français, eux, sont méfiants. On pensait qu'on avait atteint un point de bascule où la défiance était en train de reculer. On s'aperçoit que c'est l'inverse. Avec un phénomène assez dingue, c'est que certains Français assimilent AstraZeneca à Moderna, qui n'a absolument rien à voir, mais on commence à voir une espèce de méfiance aussi vis-à-vis du vaccin Moderna.
Il faut dire qu'il y a une défiance, on l'a dit tout à l'heure, à propos de la vaccination en France, qui est assez importante. En fait, c'est paradoxal dans un pays qui a fait justement de la question de la vaccination de Pasteur, mais il se trouve que la question de la vaccination en France, elle a à voir beaucoup avec la question du civisme, avec l'idée qu'on protège les autres. Si on ne se protège pas seulement soi-même, on protège les autres. Et en ce moment, on est dans une période où la crise de défiance dans la politique, la perception qu'ont les Français que la France ne va pas très très bien, évidemment est un obstacle, un frein supplémentaire. Oui. Donc AstraZeneca, dans ce contexte-là, avec le doute qu'ont les Français aujourd'hui, je pense de nombreux Européens aussi, sur qui dit la vérité en matière scientifique. Depuis un an, nous sommes scotchés devant nos écrans de télévision à avoir des avis...
Avec des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, d'ailleurs.
Donc il y a un doute, et s'il y a un doute, et même si ce doute était levé, qu'on dise il y a bien un lien de cause à effet, mais il ne concerne qu'une toute petite partie, un risque extrêmement faible, je crains que pour le vaccin AstraZeneca, ça va être très compliqué de s'imposer aux yeux des Français comme quelque chose dans lequel on peut avoir confiance.
Il y a une bonne nouvelle au milieu de tout ça quand même, Olivier Perroux, c'est qu'il semble qu'on est en train d'atteindre le pic de cette fameuse troisième vague. On voit par exemple que le niveau de contamination dans le Nord, qui a confiné très tôt, avec d'abord les week-ends, avant l'Île-de-France, on s'en souvient, commence à refluer, ça commence à baisser.
Heureusement, ça veut dire que les mesures qui ont été prises, certains
disaient
tardivement...
Vous vous souvenez, beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins, beaucoup d'urgentistes nous avaient dit que ce n'est pas suffisant, là, les mesures du gouvernement. Il faudrait refermer la France de façon stricte.
Bien sûr. Et c'est là où Emmanuel Macron, justement, a coupé un peu la poire en deux. Et on voit que cette gestion, finalement, apporte quelques fruits. Mais encore une fois, ça va être... c'est lié au vaccin, c'est lié à notre sujet des vaccins. C'est jusqu'à quand, si on ne vaccine pas, est-ce que, justement, on ne risque pas d'avoir un repic, encore une fois? Il faut un maximum, et c'était un peu le sens du message d'Emmanuel Macron aux collégiens, c'était au maximum éviter un repic de l'épidémie, justement en vaccinant, pour éviter un reconfinement d'ici la fin de l'année scolaire. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, mais à suivre de près en relation avec la vaccination.
Michel Cotta.
Oui, mais c'était le pari, au fond, de Macron. Alors on va voir, il n'est pas encore ni gagné ni perdu, mais le pari, c'était faire monter la vaccination en même temps qu'on n'enfermait pas les Français. C'est toute la bagarre entre enfermistes, comme on dit maintenant, et non-enfermistes.
Oui.
C'est en cours. C'était à la fois un pari politique et sanitaire. Peut-être, après tout, les choses ne sont pas toujours catastrophiques. Peut-être que ça va marcher.
Il a fallu du temps quand même pour se mettre d'aplomb sur l'autoroute, comme on dit. Les vaccinodromes, on nous avait dit non, et puis finalement c'est oui. Maintenant, ça y est, c'est parti. Avec d'ailleurs l'armée qui a monté 7 vaccinodromes, qui vont vacciner quand même 50 000 Français par semaine. Ça n'est pas rien. Les autotests, ça y est, c'est parti aussi. Là, l'autorisation a été donnée pour dans quelques jours dans les pharmacies. Et puis les doses qui arrivent, 12 millions attendues ce mois-ci. le cap des 10 millions de vaccinés est franchi. Là, je crois qu'on y est quasiment, puisqu'on a 48 heures de retard sur les chiffres que donne Vaccin Tracker. Mais ça y est, ça avance quand même, ça progresse.
Oui, heureusement, parce que le début a été laborieux. On se rappelle que le début, au moment où Olivier Véran dit qu'on peut aller sur le site santé.fr pour prendre des rendez-vous de vaccination, c'était rigoureusement impossible d'avoir un rendez-vous de vaccination. Oui. Donc le démarrage a été absolument calamiteux.
Oui.
De ce point de vue-là, depuis 2 ou 3 semaines, on sent, comme vous le dites, qu'il y a un changement de braquet.
Oui.
On voit à la fois une accélération de la communication, des campagnes de communication. Le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure dans sa communication sur la vaccination, l'ouverture des vaccinodromes. Et les vaccinodromes, ça peut être extrêmement intéressant parce que je le disais tout à l'heure, il y a une question de civisme à travers la vaccination. Donc avoir des lieux un peu consacrés à la question de la vaccination, faire de la vaccination quelque chose un peu comme on se rend au stade d'une certaine manière, je pense que ça va dans la bonne direction.
Mais ce qui est fou dans ce que, quand je vous écoute parler, c'est que vous parlez des nouveaux outils qui sont mis en place. On s'aperçoit que ces nouveaux outils, ils ont été bâtis par la société civile. Je pense notamment au logiciel VitMaDose, qui simplifie la prise de rendez-vous. Même Doctissimo, c'est un acteur privé. Ça veut dire qu'aujourd'hui...
Qui explose d'ailleurs dans le
qui explose et qui marche très très bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout, l'État n'y arrive pas tout seul.
Je ne sais pas si c'est l'État qui ne peut pas tout, mais c'est peut-être parfois l'État qui ne regarde pas ailleurs où sont d'autres talents. Enfin, c'est quand même, enfin, VitMaDose, pardon de l'expression, enfin, je dis ça en ayant 30 ans, mais c'est des gamins qui ont fait ça. Enfin, c'est des très jeunes qui
ont... Guillaume Rosier, qui est le jeune développeur qui a développé le site Vaccin Tracker.
Donc finalement, si nous étions vraiment en guerre, comme le président de la République l'a dit à l'époque, eh bien, il aurait fallu mobiliser toutes ses forces hors de l'État, parce que Emmanuel Macron, et c'était son credo en 2017, il le disait déjà, l'État ne peut pas tout, et c'est la définition même du libéralisme. Et c'est d'aller chercher les forces, toutes les forces, où elles sont.
Oui, alors, il y en a un autre qui s'appelle Covid-List. Hein, je dis ça pour tous les gens qui nous écoutent. Il y a VitMaDose, il y a Covid-List, qui simplifie, grâce à des algorithmes, les places libres, les populations qui ont droit à l'accès au vaccin, et puis l'endroit où on se trouve. Michel Cotta.
Oui, non, si on parle de ce vaccin, c'est vrai qu'il a fallu naturellement... Les fonctionnaires, il y a des lobbies de fonctionnaires là. Même on en parlait tout à l'heure, même si l'autotest est fait uniquement en pharmacie, c'est bien parce que les pharmacies ont protesté à l'idée qu'on les mette dans les grands magasins. Donc tout ça, un pays de fonctionnaires, on est bien obligé de l'assumer quand on est la tête de l'État.
Pays très administré en tout cas.
C'est un pays très administré, mais peut-être si on veut être optimiste aussi. Il y aura des créations d'emplois absolument formidables.
Bien, on
Là, on en voit, et il y en aura qui changera, qui marqueront des marqueurs de l'après-crise.
Bien, on est contraint de s'arrêter. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 18h56, dans quelques secondes, le journal. Et puis le Club des idées, grand débat ce soir sur le Rassemblement national et les jeunes qui séduisent de plus en plus sont en train de comprendre pourquoi. A tout de suite.